Bonjour à tous, Emmanuel Robitaille avec vous pour la prochaine heure. Cette semaine à l'émission, encore des bonnes nouvelles parce que ça va bien dans le monde et on vous en fait part également. Robert Blondin est ici pour nous parler de sa chronique du bonheur et cette semaine, il nous parle des niveaux d'envie. Également à l'émission, notre invitée Judy Servet, fondatrice du restaurant Robin des Bois à Montréal. Bienvenue à Aime la vie. Des bonnes nouvelles. Je suis contente qu'on en parle encore et toujours cette semaine à l'émission. Bonjour Robert.
Bonjour Emmanuel.
Comment vas-tu?
Ma foi, assez bien, merci.
Ma foi, c'est convaincant. Cette semaine, Robert et les gens qui nous écoutent, j'ai décidé de vous parler de 2017 et des meilleures choses qui se sont produites en 2017. Il y a un top 10 des meilleures nouvelles de la dernière année, puis j'ai trouvé ça super important d'en parler parce que depuis 2015, je ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi, Robert, ou si tu l'as ressenti ainsi, je pense que ça a été assez turbulent sur le plan sociétal et planétaire et individuel. On dirait que depuis 3 ans, les gens vivent énormément de remous.
On n'a pas fini avec le monsieur au sud de la frontière, là.
Le monsieur...
C'est Trump qui s'appelle.
Et effectivement, puis tout simplement, tous les décès dans le monde public, artistique qu'on a vécu en 2016, il y a beaucoup, beaucoup de changements, des remous. Et les gens, individuellement, nous en parlent, on est fatigués.
Heureusement, il y a des choses, comme tu dis, qui vont bien.
Oui.
Mais malheureusement, il y en a encore pas mal qui vont mal. Mais on va parler de celles qui vont bien.
Mais ça, c'est la polarité du monde, Robert. Il y a toujours du positif et du négatif, parce que si le négatif n'était pas là, nous ne pourrions voir le positif dans son pôle positif. Tu sais?
Je vais te la laisser, celle-là.
Ah, merci. Alors, on y va avec le top 10 des meilleures nouvelles qui se sont passées en 2017, parce que malgré les remous, il y a des belles choses qui se sont passées. Premièrement, la panthère des neiges ou léopard des neiges, le dauphin de rivière, une des espèces les plus menacées en 2013, le lamantin, et le grizzly de Yellowstone sont tous retirés de la liste des animaux en voie de disparition. Et moi, je ne sais pas si tu connais mon amour profond pour les animaux, mais c'est comme c'est très important pour moi de savoir qu'on est en train de prendre le dessus, qu'on change nos habitudes pour permettre à des espèces qui étaient avant menacées qui puissent maintenant vivre. Je trouve que c'est une excellente nouvelle. Deuxième bonne nouvelle. La rougeole, la lèpre, la maladie du ver de Guinée et la polio sont presque complètement éradiquées. Et maintenant, on peut prévenir l'Ebola et le choléra. On est chanceux ici en Amérique du Nord, ce ne sont pas des maladies avec lesquelles on a à lutter quotidiennement, mais l'éradication de maladies qui ont fait autant de ravages dans les dernières années et la prévention ou l'avancement sur d'autres, ça me fait très, très plaisir pour ces peuples, ces communautés qui, eux, ont à se battre. Donc, très bonne nouvelle sur le plan de la santé de notre planète. Troisième bonne nouvelle, savais-tu, Robert, que la nation entière du Costa Rica, pendant 2017, a été capable de rouler, d'utiliser de l'énergie renouvelable à 100% pendant 10 mois consécutifs. Pendant 10 mois consécutifs, le Costa Rica aurait réussi à rouler sur de l'énergie renouvelable à 100%.
Alors, il y a quand même de l'essence au Costa Rica.
Là, j'y ai pas été entre la semaine passée et cette semaine.
Ben oui,
j'ai pas eu le temps.
Il y a un paquet de camions, il y a un paquet d'autos, mais tu veux dire que ça a augmenté, quoi, l'utilisation en renouvelable?
Oui.
Alors ça, c'est une bonne nouvelle.
À 100% renouvelable. Donc, c'est possible.
T'sais? Oui. J'ai comme des doutes pour ça, parce que un pays comme ce pays-là, sans essence, c'est bien ça que tu dis?
On envoie à Jean-Sébastien sur Internet immédiatement. Jean-Sébastien, Costa Rica 2017, énergie renouvelable ouais. À 100%, utilité. Mais n'en demeure pas moins que cette nation-là a fait preuve d'une grande avancée sur le plan de l'utilisation de nos ressources, qui, je dirais, la malutilisation de
si
nos ressources.
Si c'est le cas, oui, mais... Je suis tellement surpris.
T'es sceptique.
Qu'est-ce qu'ils vont faire de toutes les centaines de milliers d'autos et de camions qu'il y a là?
Ah.
Très surpris.
Ah. Est-ce qu'on a Jean-Sébastien? Es-tu a envie de me parler, je pense.
Alors, on parle d'électricité 100% renouvelable.
On parle d'électricité 100% renouvelable.
Donc, il y aura encore fort probablement des camions sur les routes. Okay. Mais 98,7%, donc on peut tout de même arrondir à 100%. Environ 100% de l'électricité a été faite à partir d'énergie renouvelable au Costa Rica.
Ça, c'est formidable. Ça, c'est formidable. Mais ça me semble bien que ça ne peut pas être les autos et les camions. Là. Ça se pouvait pas.
Ben, merci infiniment, Jean-Sébastien. Mais quand on aura justement la bonne idée d'aller dans l'électricité sur le plan des voitures, ce qui est très, très présent puisqu'on ne l'utilise pas, mais ça sera encore à transférer là, puis ça pourrait être possible. C'est ce qu'on entend, finalement.
Absolument. Pour le moment, on est qu'à 3 %.
T'es peur, hein? Nouvelle numéro 4. Il y a tellement de prisons qui ont fermé dans les Pays-Bas qu'elles ont été transformées en maisons pour des dizaines de milliers de sans-abri. Donc, moi, j'entends deux bonnes nouvelles, c'est-à-dire que la criminalité est tellement en baisse qu'on n'a plus besoin d'institutionnaliser les criminels, mettre des guillemets ici, ce qui est une excellente chose. Moi, j'ai un petit peu de difficulté avec ce système-là d'incarcération de toute façon. Et l'autre bonne nouvelle, c'est qu'en plus de ça, on utilise les établissements pour les renouveler, en faire quelque chose de très aidant pour une autre partie de la population. Je trouve ça exceptionnel. Cinquième bonne nouvelle de 2017, plus de 200 nations ont signé la résolution d'éliminer le plastique de nos océans. Et tu te rappelles, la semaine dernière, j'avais parlé du protocole de Montréal parce que je parlais de la couche d'ozone. Pour ceux qui n'étaient pas à l'écoute, la couche d'ozone qui va se réparer d'ici 2060. On voit que quand des nations se réunissent vers un même but, quand à un moment donné, quand on en vient à l'idée qu'on doit survivre et que là, c'est menacé, bien, c'est possible de bouger les choses. Et actuellement, il semble que le plastique, en 2017, c'était l'alarme généralisée et l'alarme principale. Et je suis contente de voir un aussi grand rassemblement autour de ce problème-là. Très bonne nouvelle pour 2017. Sixième bonne nouvelle de 2017, l'Israël a réussi à résoudre et résorber sa plus grande sécheresse des 1000 dernières années. En changeant l'eau océanique en eau potable à boire, et ils sont en train de partager la technologie qui leur a permis d'y arriver avec le monde entier. T'imagines?
Est-ce qu'on sait quelle sorte de technologie? Je sais que ça existait au Moyen-Orient avant. Là.
C'est vrai? Non, moi, j'ai pas été faire la recherche sur la technologie utilisée, mais n'en demeure pas moins qu'actuellement, ils sont en train de la partager. Donc, non seulement ils ont réussi à résorber un aussi gros problème que la sécheresse, qui équivaut à une famine, où, t'sais, c'est grand pour une communauté, mais non seulement ça, ils ont décidé de partager la bonne nouvelle. Donc, je partage le partage de la bonne nouvelle. On a la poupée russe ici. Numéro 7, l'Inde a brisé son propre record Guinness en plantant 67 millions d'arbres en 12 heures.
Ils ont du personnel, il faut dire.
En 12 heures. Oui. Je ne sais pas s'ils ont pris le temps de manger mais à travers ça, mais 12 heures. Ça m'a complètement mis jeté par terre, comme on dirait. Je trouve ça fabuleux. La star de la NFL, J.J. Watt, défenseur pour les Texans de Houston. Je ne suis pas une fan de sport, Robert. Je ne sais pas si toi, c'est quelqu'un qui...
Oui, je sais qui c'est.
Ça sonne une cloche.
Oui, moi, j'aime ça, le football.
Là. Oui, moi, je comprends absolument rien. Il a quand même amassé 37 millions de dollars pour venir en aide aux sinistrés de la tornade Harvey qui s'est abattue sur la ville de son équipe Houston au Texas. Il y avait plus de 200 000 donneurs. Donc, un bel exemple d'une personnalité publique qui a beaucoup d'argent qu'il redonne à sa communauté.
Ce qui est formidable, c'est pas de l'argent personnel qu'il a donné. Il a organisé une levée de fonds. Il pensait recueillir 600 000 $ et il s'est rendu
37
à 37 millions. C'est absolument extraordinaire. Les gens l'ont vraiment suivi. C'est beau.
C'est génial. Donc, de voir des gens d'influence comme ça partir le mouvement, c'est là qu'on voit qu'une seule personne peut bouger des masses et des foules. Il ne faut pas se sous-estimer dans notre impact. Wonder Woman, qui a fracassé des records à sa sortie dans les cinémas, est venue appuyer le mouvement MeToo, hashtag moi aussi, qu'on a connu en 2017, soit des femmes qui se sont levées et qui ont parlé devant les injustices, les agressions, et qui vont changer culturellement et socialement le milieu dans lequel on évolue. Je pense que ça ne sera pas seulement au travail. Je pense que c'est de manière générale, mais on a levé le voile sur ce phénomène-là. Et moi, en tant que femme, en tout cas, je trouve que c'est très, très positif. C'est très bien. Ça s'est fait dans le calme, dans le respect. tout le monde a dit son affaire, tout le monde a son opinion. Mais c'était juste comme une belle coïncidence et je trouve ça intéressant de le voir comme ça. Et finalement, la Terre s'est rassemblée autour d'un événement astral cette année, notre grand univers, notre beau cosmos. L'éclipse solaire totale qui est survenue en août dernier et qui est devenue l'événement le plus partagé de l'histoire de l'humanité. Et à sa défense, je dis que je ne suis pas certaine qu'on ait pu partager une nouvelle aussi facilement qu'avec les technologies et l'Internet d'aujourd'hui, on va se comprendre.
Oui, c'est facile de faire des records mondiaux. Là,
mais quand même, je trouve que c'est le fun parce que le ciel nous a rassemblés en tant que planète et je trouve ça magnifique. Alors voilà, c'est ce qui s'est passé en 2017 de joli. Il y a des belles choses dans le monde parce qu'il y a des bonnes nouvelles et aussi des belles et des bonnes personnes qui, par leur initiative, changent les choses, apportent bonheur, apportent espoir à ceux qu'ils croisent. C'est le cas aujourd'hui des restaurants Robin des Bois, un organisme et un restaurant d'économie sociale qui a fêté ses 10 ans en 2016, qui se situe sur le boulevard Saint-Laurent, à Montréal. Pour en parler davantage, on a sa fondatrice, Judy Servet, qui est avec nous. Bonjour, Madame Servet.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté l'invitation.
Avec plaisir.
J'ai été un peu mystérieuse volontairement dans la description. Je n'ai pas beaucoup expliqué ce que c'est Robin des Bois parce que j'aimerais beaucoup, dans vos mots, que vous nous disiez c'est quoi.
C'est quoi? Robin des Bois, c'est un restaurant ordinaire, si on veut. Il y en a qui viennent manger.
Vous trouvez?
Oui, bien, il y en a qui viennent manger, puis c'est juste en payant la facture qu'ils se rendent compte que c'était des bénévoles qui les avaient servis, que l'équipe est composée de bénévoles et d'employés et que les profits sont remis à quatre organismes, qui sont le Chaînon, Jeunesse Soleil, Centre Paul Roulant et le Refuge. On a choisi ces organismes-là il y a 11 ans, qui sont des organismes qui étaient proches physiquement du Robin et ensuite qui aidaient au niveau de la pauvreté urbaine. On voulait un peu cibler ça pour la première intention du Robin, qui était de rassembler des gens, d'aider au niveau de la... On a beaucoup de solitude en ce moment, donc c'est un lieu de rassemblement, c'est un lieu qu'on accepte tout le monde à part égale à faire du bénévolat. Et donc, les quatre organismes nous aidaient à continuer notre mission, si on veut.
Mais ça répondait effectivement au besoin initial qui était de lutter contre la pauvreté sociale. Donc, ce qu'on entend, c'est que le Robin des Bois, ce qu'on voit clairement dans notre tête, le fameux personnage émerge, ça c'est sûr. Là. Donc, on prend à certaines personnes pour redonner à d'autres. On entend également que c'est un restaurant aux apparences ordinaires. Vous avez, par contre, c'est des bénévoles qui y travaillent. On sert les clients de toutes sortes. Vous avez même dit qu'il y a des étudiants qui côtoient des millionnaires à vos tables.
Tout à fait, oui.
C'est ça. Et depuis 10 ans, vous avez remis plus de 85 000 $ à ces quatre organismes-là parce que ce que vous avez à la fin de l'année, vous ne le gardez pas pour vous.
Non.
Vous redonnez tout.
Exact. On a remis à peu près 110 000 depuis 11 ans. C'est ça. Mais c'est sûr que c'est pas énorme. On pourrait faire un tournoi de golf une journée, puis on aurait ramassé ça. Par contre, on n'a aucune subvention. Nous, on travaille... la restauration, c'est un milieu assez difficile.
Effectivement.
Mais on fait beaucoup de réinsertion sociale. On a des jeunes décrocheurs. On a des gens en réinsertion sociale. On a beaucoup de... quelques jeunes autistes qui viennent aussi, que les parents, bon, qui apprennent, que les jeunes veulent apprendre à travailler. On a toutes les écoles, des jeunes d'école qui doivent faire des heures de bénévolat.
Moi, je veux bien y aller, mais on mange quoi chez vous?
Oh,
c'est
on mange
un restaurant.
Bon. Non, c'est un super bon restaurant. C'est vraiment bon, puis 99% fait maison. C'est vraiment bon parce que honnêtement, toute la mission ne fonctionnerait pas si c'était pas bon. Parce que les gens, ils viendraient une fois.
Ah, donnez-moi des détails. Là,
alors, je vous donne de la pieuvre confite, du canard confit. On a une soupe d'ail qui est une soupe de lentilles, qui est notre signature, si on veut. On fait des super bonnes sandwichs, des pâtes carbonara. C'est vraiment le restaurant familial d'hier, là, d'autrefois.
Oui, mais avec une touche de raffinement quand même.
Oui, oui, là, non, ça. C'est très bon. Tout est maison.
On n'est pas dans un snack bar, là.
Pas du tout. Okay. Pas du tout. C'est une belle salle à manger. On fait beaucoup de mariages. On fait des levées de fonds, des mariages, des fêtes d'anniversaire. C'est un restaurant très convivial. C'est beau. Les gens rentrent souvent et font « Ah, oh, ben c'est beau! »
Mais moi, j'ai été voir là, et ce qui m'a sauté aux yeux, c'est l'éclectisme de l'endroit. C'est un endroit qui est ouvert. À certains endroits, tu sens que c'est un peu plus cocooning, champêtre, je dirais, mais il y a une autre partie qui est un peu plus, pas luxueuse, mais il y a quand même l'habillement est différent. Il y a des sections. Ça correspond vraiment à l'éclectisme des clients
des gens,
aussi, que vous dites.
Des clients, des gens, tout à fait.
Et moi, je veux le nommer, vous servez des repas végétariens.
Beaucoup.
Santé. Tout ce
vegan, végétarien, sans gluten, tout est identifié. Parce qu'on a des bénévoles qui font le service aux tables. Donc, il faut que tout soit identifié parce que les pauvres, les bénévoles, déjà, on les sort de leur zone de confort. C'est pas un métier qu'ils sont habitués. Donc, il faut les aider.
Mais ce que vous avez dit tout à l'heure est extrêmement important aussi parce que 85 % des restaurants ferment après 3 ans. Donc, vous faites partie du 15 % qui reste après 11 ans.
11
donc,
ans.
Comme vous disiez à Robert, si c'était pas bon, ça serait fermé. Ça fait longtemps.
C'est sûr.
Si c'était juste végétarien, non.
Ah, ça, on ne sait pas.
Ça change. Hein?
Moi, j'ai une idée là-dessus.
Hey,
moi, la pieuvre confite, là.
Oh non, c'est bon. Puis le canard confit. Arrête. Bon, c'est pour on a de la bavette aussi. Ben, non, nous autres, on veut
être accessible. Elle mange pas ça, elle mange juste du gazon. Là,
c'est correct. C'est très bien aussi. On veut être accessible à tous.
Il y a beaucoup d'alternatives de la luzerne, Robert, dans le végétarisme et le végétalisme.
Oh, parle-moi de ça, la luzerne. Je me lève la nuit.
Mais je vous dis félicitations tout d'abord, mais vous expliquez ça comment? Parce que tantôt, vous avez dit également, on aurait pu faire un tournoi de golf une journée et on aurait ramassé pratiquement un tas d'argent, mais on est loin de dans la continuité du service, de la réinsertion, des bénévoles. On a ce que vous offrez à continuellement, beaucoup plus grand qu'une journée. Là. Qu'est-ce qui vous a tourné vers soutenir un projet quotidiennement comme ça?
Plutôt
que de faire ce que vous avez dit, justement, pourquoi pas un tournoi de golf?
Moi, je veux dire, j'aime mon travail, j'aime ça rentrer travailler, j'aime les gens avec qui on travaille, j'ai appris le métier de serveuse et de restauratrice à 40 ans. Ce qui ne me dérange pas, je me dis, c'est toujours bon de savoir ça, de savoir faire ça, tu peux travailler n'importe où, n'importe quand sur la terre. J'aime pas savoir nécessairement avec qui on travaille tous les jours, on rencontre toujours du monde différent, c'est tellement riche humainement, probablement comme votre métier, vous rencontrez toujours des gens différents. Le fait aussi que les gens sont là pour travailler, pour donner de leur temps, c'est du monde qui sont ouverts, c'est du monde qui sont généreux, c'est des gens qui sont un peu fébriles parce qu'encore une fois, ils sont sortis de leur zone. Donc, ça fait des conversations très, très profondes. Puis on ne sait jamais avec qui qu'on a affaire. On ne sait pas les gens pourquoi ils sont là.
Mais j'imagine que la clientèle, il y a une certaine fidélisation aussi. Si ça va aussi bien, c'est que les gens y retournent.
Oui, tout à fait.
Ouais. Bouche-à-oreille aussi, sûrement.
Oui, tout à fait. Puis les bénévoles amènent des clients, les clients deviennent des bénévoles et c'est la roue qui fait tourner. C'est vraiment grâce aux bénévoles qu'on est encore là après 11 ans parce que pour moi, je suis convaincue que si les bénévoles n'étaient pas là, oui, ils nous aident, mais surtout au niveau de leur... C'est nos meilleurs ambassadeurs, tu sais.
Et les porte-parole, ils font figure humaine.
Complètement. Puis ils sont fiers. Ils aiment ça. Puis ils sont fiers des belles assiettes. Puis c'est bon. Puis les clients sont contents. Puis ils ont donné un bon service. Il y a vraiment un sentiment de devoir d'accompli de tous.
Vraiment. Mais ce que vous avez dit, c'est que vous avez appris ce travail-là d'être serveuse à 40 ans.
Mm-hmm.
Vous aviez une compagnie de vidéoclips avant.
Oui, entre autres.
C'est ce que vous faisiez.
Oui, ouais, j'avais une maison de production. On faisait des vidéoclips, de la publicité, des documentaires. Ouais.
Bon. Et avec cette compagnie-là, vous aviez l'habitude de participer au repas à l'accueil Bonneau chaque année, une fois par année.
Oui.
Puis vous vous dites, c'est le fun une fois par année, mais ça serait le fun que ça soit un petit peu tous les jours. Et là, vous avez été en Afrique.
Mm-hmm.
Et quand vous revenez, vous avez la conviction qu'un restaurant à but non lucratif, c'est votre nouvelle mission.
Oui.
Comment ça s'amalgame? Qui était la femme avant ce projet-là?
Ben moi, j'ai toujours été entrepreneur. Je me suis retrouvée en cinéma un peu par hasard. Je me suis retrouvée à surprise. Donc, c'est les choses qui me... Je suis pas quelqu'un, j'aime pas vraiment étudier. J'aime plus faire. Fait que je me retrouve dans certains rôles. Puis à un moment donné, ben, je me tanne un peu ou j'ai le goût d'autres challenges et j'ai le goût d'essayer des trucs différents. Et l'Afrique, ce que ça apporte, je pense à n'importe qui est allé, c'est le sens de la famille, c'est le sens de la communauté, qui est peut-être un peu trop des fois pour les gens là-bas qui vivent là. Il y en a qui... Ça peut être un peu too much, mais tu as quand même vraiment un sentiment de communauté qui est très fort.
Une proximité qu'on ne retrouve pas ici nécessairement.
Exact. Puis qu'ici devient même exagéré dans nos temps, où est-ce que les gens vivent tellement de solitude que c'est un peu l'extrême, c'est le contraire. Donc, je me disais, trouvons un endroit où est-ce qu'on peut donner de notre temps, où est-ce qu'on peut être généreux, où est-ce qu'on peut donner, mais t'es pas en contact direct avec la misère. Ça, c'était vraiment la première intention du restaurant. Puis bon, qu'est-ce qui est mieux de faire ça? C'est un restaurant, c'est de la bouffe, c'est convivial, tout le monde aime ça, tout le monde doit manger.
Tout le monde a besoin, c'est un besoin fondamental. De base,
il y a beaucoup de bénévoles qui œuvrent au restaurant. Il y a des gens qui sont payés aussi?
Oui, on est vraiment moitié employé, moitié bénévole. D'accord.
Vous avez une équipe stable de 15 personnes, je
pense. Exact. Les chefs, c'est des professionnels, Mathieu, Romain. Oui, ça prend du monde qui savent ce qu'ils font quand même en place, sinon ça ne marcherait vraiment pas.
Pas parce qu'ils
veulent
gagner leur vie, c'est sûr.
Oui, sinon ça ne marcherait pas.
Mais vous nommez que l'Afrique vous a amené à réfléchir sur l'aspect de communauté, mais il y avait quand même l'accueil Bonneau qui était présent avant.
Oui,
l'idée vous
trottait
dans la tête. Il y a peut-être une confirmation.
C'était beaucoup moins bon, l'accueil Bonneau.
Mais qu'est-ce qui fait qu'une femme désire donner comme ça sa communauté?
Je pense que ça fait partie de... Moi, je trouve que ça fait partie d'un équilibre de vie. Je ne suis pas quelqu'un qui a... Je vais dire je travaille 80 heures par semaine. Jamais. Moi, je travaille 40, 50. Bon, des fois, il faut en travailler un peu plus, mais j'ai ma famille, j'ai ma fille, j'ai mes amis, j'ai mon sport. Moi, j'ai toujours gardé un équilibre et je dirais que donner fait partie de cet équilibre-là. T'sais. Je pense que quand on est dans les gens privilégiés, il faut redonner. Je pense que ça fait partie de... Oui, ça, c'est quelque chose qu'on doit faire. Moi, je vois ça comme... Ouais.
Bon, c'est simplement du partage, hein, c'est tout ce que c'est, mais c'est nécessaire. C'est nécessaire à l'intérieur d'une famille, d'un clan, d'un pays, d'une région, d'une ville. C'est la même chose. Mais quand il n'y a aucune collaboration du genre, aucun partage, ça fait des villes qui finissent par exploser assez rapidement au niveau social.
Exact. Et des familles aussi, et des gangs d'amis. Puis il faut commencer effectivement par aider les gens autour de nous, t'sais. Je ne vais pas aller aider quelqu'un s'il y a quelqu'un proche de moi qui a besoin d'aide. Je veux dire, à un moment donné, il faut être conséquent un peu avec ce qu'on fait. Puis, il ne faut pas aider non plus au détriment de soi. T'sais. Je veux dire, des fois, il y en a qui aident trop, après ça, ils se brûlent. Puis, tu sais, je veux dire,
faut respecter nos limites personnelles de ce qu'on a à offrir parce qu'on ne peut pas donner
dans,
ce qu'on
n'a
pas.
Le syndrome
là.
Du pélican.
Oui, exact. Puis, il y a des fois qu'on n'est pas, si on est en peine d'amour, si on est si on est très fatigué, ou si on n'a peut-être pas cette capacité de donner là. Par contre, le Robin, pourquoi ça marche, c'est que les gens peuvent venir une fois. Les gens, il y en a qui viennent, comme Jean-Pierre vient tous les semaines depuis 11 ans.
Salut Jean-Pierre.
Salut Jean-Pierre. On en a plusieurs. Il y a Daniel, il y a Stéphane. On en a plusieurs qui viennent régulièrement. Puis il y en a d'autres qui viennent juste une fois. Puis après ça, il y en a d'autres qui sont, on va dire, en burn-out de travail. Mm-hmm. Qui lentement commence à avoir un peu d'énergie. Fait que venir faire un 4 heures, pas payer, donc de se dire, bon, mais je vais essayer, je vais faire mon 4 heures, je vais voir comment je me sens.
Ça augmente l'estime de soi, ça remet un peu en action.
Oui, ils sont en contact, ils réalisent que ça leur fait du bien, mm-hmm. Puis il y en a qui reviennent après ça, puis après ça, je trouve une job, on les voit plus. C'est parfait. C'est
dans le restaurant, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est habillé en Robin des Bois, puis en Frère Toc, puis en Marianne?
Non,
on est déçus un peu.
C'est juste au niveau de l'image. On est un peu plus ça. Patrice Cocro, notre porte-parole, il s'est habillé en Robin des Bois à un moment donné, mais on n'est plus là. On a changé.
Et autre que donner rapidement, Madame Servé, qu'est-ce qui vous rend heureuse, vous, en tant que femme?
Oh mon Dieu! Qu'est-ce qui me rend heureuse en tant que femme? Faire ce que je veux quand je veux. Je sais
la liberté, hein?
La liberté.
Ça revient souvent, ça.
C'est parce que c'est essentiel.
Je pense qu'il n'y a pas d'autre fondement. Ouais. La liberté.
Ouais.
Mais merci d'avoir pris la liberté, d'avoir cette initiative-là. Merci d'offrir un éclectisme tant dans l'ambiance, tant au niveau des employés que des clients, que du menu. Vous offrez non seulement aux causes que vous servez, mais également à toute l'équipe et aux clients une belle opportunité d'ouverture d'esprit. Merci infiniment d'avoir accepté. Continuez votre beau travail. Merci. Toujours Aime la vie, Emmanuel avec vous, accompagné de Robert. Toujours, on vient de recevoir Julie Servé pour le restaurant Robin des Bois et pour ceux et celles qui voudraient aller manger aujourd'hui même et qui veulent absolument essayer cet endroit fantastique-là. On vous invite à vous rendre au 4653 Boulevard Saint-Laurent à Montréal. C'est fermé les dimanches, possibilité d'avoir des événements spéciaux dans cette journée-là, mais dîner, souper ouvert. 6 jours semaine.
Un très beau menu.
Hey, végétarien.
Va-t'en donc de végétarien.
Pas seulement végétarien, Robert.
J'espère,
simplement que c'est tout.
Si tu veux gérer ça, on va t'en faire d'autres choses.
Tu auras ta pieuvre confite, Robert.
Absolument.
Robert, qu'est-ce qui t'a
attiré
ton attention cette semaine?
Oh, non, j'ai plus que mon attention, ça m'a donné une grande tape dans le dos.
Oui?
Ouais. Savais-tu combien de tasses de café quotidiennement sont bues dans le monde?
Et ça doit être
2 milliards 25 millions de tasses
chaque jour. 7 millions de personnes?
Ouais. Ça fait du café. Et ça fait longtemps qu'on nous dit que le café n'est pas trop bon pour la santé, cancer de la vessie. Ben là, on vient de prouver que c'est pas vrai. Non seulement c'est pas mauvais pour la santé, mais regarde bien ça. Des consommateurs d'environ 3 tasses de café par jour, on pense pas à qu'une.
C'est un peu moins ça, je pense.
Hein? Y compris le décaféiné, si tu veux. Semble jouir d'une plus grande espérance de vie que ceux qui n'en boivent pas. C'est une étude européenne.
Ben voyons.
Sur 520 000 personnes. C'est très
sérieux. Bon échantillon, quand même, oui. Je dirais.
C'est l'EPIC, là, de recherche qui a fait ça. Ça a duré 16 ans comme étude.
Donc, c'est une étude longitudinale, qu'on dit donc qui perdure dans le temps.
Absolument.
C'est vraiment intéressant.
Mais je vais t'apprendre peut-être d'autres choses. Vas-y. Sur le café. Ce qui n'est pas bon dans le café, c'est les toxines qui se développent dans le café avec la cuisson. les pires cafés qu'on puisse manger. C'est pas le café qui est le problème, c'est les toxines qui s'y développent.
Comment on le fait, notre café, finalement?
C'est ça. Mais regarde bien comment le faire. Je vais t'expliquer.
J'aimerais
ça, moi.
Ça parce que je pense que je suis pas. Je l'ai pas.
Les pires cafés au niveau des toxines, c'est ces cafetières qu'on laisse, tu sais, dans le bureau, là, puis qui est faite à 8 h le matin, puis il en reste encore une demi-tasse à 11 h 30.
Je fais ça chez nous.
Quand ça dure longtemps, il n'y a rien de pire pour la santé que ce genre de café-là. Si tu vas avoir un café qui n'a pas du tout de toxines, pas du tout de toxines, d'abord, il faut que ça soit un espresso.
Okay.
Faut que ça soit un espresso. L'espresso, ça veut dire rapide, ça veut dire vite. Et l'espresso doit, pendant que ton eau passe à travers le café moulu, ne pas dépasser 18 secondes. C'est pour ça que ça se fait rapidement. C'est pas juste pour aller vite pour en vendre. En bas de 18 secondes, il n'y a aucune toxine dans ton café.
J'ai une question.
Ben, vas-y.
Est-ce qu'un expresso allongé, ça marche pareil? Si on rajoute de l'eau après, parce que moi, je suis plus allongé.
Si tu le rajoutes de l'eau après, t'as beau. Mais si tu le rallonges en laissant couler plus que 18 secondes à travers le café, là, t'es au-delà des 18 secondes. Il y en a beaucoup moins que sur un café qui dure 2h30, 3h, qui traîne dans la cuisine ou au bureau. Ça, c'est grave.
Donc, on en refait plus souvent plutôt que de le laisser là.
Il faut le faire à l'unité. Un café, ça se fait à l'unité uniquement.
Puis je pense que je vais être un peu logique et m'auto-répondre, mais tu me diras ce que tu en penses. Aussi, les cafetières, tout ce qui est plastique doit pas être excellent avec de l'eau chaude. Je veux dire, on en ramasse un petit peu, là.
J'en ai aucune idée, je connais rien là-dedans.
J'ai comme un doute.
Bon, ça se peut, je sais pas. Je me méfie des préjugés. Peut-être qu'il y a des bons plastiques, puis d'autres qui sont pas bons, je sais pas.
Ben,
je sais qu'une bonne cafetière, c'est surtout en verre ou en inox.
Effectivement.
Si on regarde des machines espresso, en tout cas, il n'y a pas beaucoup de plastique là-dedans.
T'sais. Je pense que le matériau utilisé joue un rôle.
Ça doit jouer, j'imagine.
Ouais. Mais je suis très contente et je vais...
Mais ça prend du café pour aller avec toi végétarien, là.
Ouais. Mais non, mais je bois mon café noir maintenant parce que justement, je ne mets plus de lait ni de sucre.
C'est la bonne façon de boire.
Tout à fait. C'est très, très
pas
important.
De sucre, pas de lait.
Et je ne pensais jamais pouvoir faire ça. Moi, j'étais quelqu'un qui buvait 4 litres de lait par semaine seul. J'étais un veau, comme dirait ma grand-mère. Je buvais du lait, là. Ça n'avait aucun sens. Et de savoir que ça me fait pas du tout.
Froid ou chaud?
Froid. Ça me fait pas du tout. J'ai complètement cessé tout produit laitier. Sucre non plus.
Tu sais, il y a le vieil adage qui dit « Le lait, c'est fait pour les enfants. Hein? » C'est inventé à téter la mère, mais c'est pas fait même pour les animaux, pour être bu par des animaux adultes. Alors, c'est la même chose pour
La lactation, il faudrait peut-être la respecter dans son temps.
Oui. T'sais? Moi, j'ai pris du retard. Faudrait que je m'y remette.
On enchaîne la musique et on continue tout de suite après avec ta chronique sur le bonheur. Je veux absolument vous parler cette semaine des Creative Morning ou les matins créatifs. Est-ce que tu connais, Robert?
Ben, c'est tous les matins chez nous.
Oui, ben effectivement, chez nous aussi, je vous dirais. Mais non, les Creative Mornings, c'est une initiative créée par Tina Roth Eisenberg en 2008 à New York. Elle voulait créer un événement matinal accessible, inspirant pour les gens, pour qu'ils puissent se retrouver. Donc, on parle d'un rassemblement une fois par mois, un vendredi par mois, le matin, qui est intéressant, mais aussi alléchant. Le concept est vraiment simple. On a un déjeuner gratuit et on peut converser avec des gens. Ça, c'est gratuit pas mal tout le temps. Et on a un événement basé sur un thème. Donc, souvent conférencier qui va être là, qui va parler d'un thème. Et c'est vraiment l'occasion d'apprendre. Il y a une période questions-réponses pendant le déjeuner, de manger gratuitement et de rencontrer des gens. C'est vraiment, vraiment original. C'est gratuit, c'est ouvert à tous. Gratuit grâce à des partenaires à long terme, des commanditaires locaux, des donations.
Et ça s'adresse à qui?
Tout le monde.
C'est gratuit et ça s'adresse à tout le monde.
Effectivement.
Donc, on choisit des sujets qui font l'affaire des organisateurs, qui intéressent les organisateurs.
Oui, en fonction des personnes qui vont bénévolement accepter de venir offrir leur expertise ou de parler d'un thème. On doit simplement s'enregistrer à l'avance pour réserver notre place. Et c'est des bénévoles qui tiennent l'événement créatif, des bénévoles aussi qui vont venir donner leur conférence. Et les Creative Mornings vont même offrir des tactiques pour parler à notre employeur pour nous permettre d'y aller, parce qu'on se rappelle que c'est les vendredis matin, selon l'heure, le fuseau horaire dans lequel on se trouve. C'est entre 8h30 et 10h ou entre 7h30 et 9h, mais si ça, chevauche une heure de travail, les Creative Mornings nous offrent des arguments, je dirais, à présenter à notre employeur pour se présenter. C'est vraiment spécial et je vous garantis que c'est une section spécifique de leur site Internet. Comment convaincre mon employeur? Et on parle, entre autres, là, ils nous proposent d'avoir plus d'introspection et plus d'inspiration au retour au travail, la capacité de partager les nouvelles connaissances avec les collègues, ou aussi la visibilité des employés à l'un des Creative Mornings via les réseaux sociaux. C'est très bien vu pour les autres compagnies qui sont visionnaires en recherche de nouvelles idées, des compagnies comme Google qui sont beaucoup dans l'entertainment, bon français, donc de permettre à leurs employés de se dégourdir, d'apprendre, sont axés sur beaucoup d'autres choses que la tâche et la productivité. On sait que c'est bien vu et ça commence à émerger de plus en plus et on recherche ça dans nos entreprises. Donc, le fait de participer à Creative Mornings serait probablement dans cette veine-là. Maintenant, ça se trouve dans 180 villes à travers le monde, 10 canadiennes, entre autres Calgary, Toronto, et ici, plus proche de nous, Montréal, Sherbrooke, Lac-Mégantic, Québec en font partie. Et vous pouvez d'ailleurs commencer un nouveau chapitre, ils appellent ça des chapitres, donc quand on ouvre un Creative Mornings dans notre communauté, dans notre
comme,
ville.
Comme pour les Hells Angels, des
parfait,
chapitres.
La même affaire.
Okay.
C'est juste un peu plus...
C'est meilleur
soft
pour la santé.
Oui, c'est ça. C'est pas le même genre de conversation. C'est pas le même genre de rassemblement. Donc, si vous vous êtes intéressé à ouvrir un chapitre de Creative Mornings ou de Matin Créatif dans votre ville, vous pouvez le faire en vous rendant sur le creativemornings.com, morning avec un S. Pour les événements à venir, la page Facebook générale des Creative Mornings ou encore les pages réservées aux villes qui vous intéressent vous sont rendues disponibles. Entre autres, Sherbrooke, vendredi dernier, présentait l'anxiété et la voix comme outil pour y faire face. Donc, ça peut être vraiment n'importe quoi. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment très intéressant.
Mais c'est toujours relié autour d'un cheminement personnel.
Pas nécessairement. Écoutez, ça dépend des villes, ça dépend des intérêts locaux, des gens professionnels qui sont... amener à partager leur expertise nécessairement. Mais qu'est-ce que tu veux dire dans le sens où on touche pas à Qu'est-ce qui serait pas, mettons, pour toi?
Ben, par exemple, l'économie ou les placements financiers. Je dis ça parce que des déjeuners comme ça, ça existe depuis toujours.
Oui.
Dans les grands hôtels de Montréal, c'est beaucoup plus cher que ce que tu viens de dire.
Oui.
Et un conférencier qui est à 7h30 du matin, quelques questions, à 9h15, tout le monde s'en va travailler. Mais ça existe déjà, mais de façon extrêmement rentable pour ceux qui le font.
Effectivement, on voit ça plus gratuite, en termes de formation. Là, ici, on est vraiment pour être créatif,
inspiré. De formation, peut-être, Emmanuel, mais beaucoup de réseautage. Surtout, ça sert surtout à ça.
Voilà. Pour les Creative Mornings, on reste dans la fraternité, dans la communauté, dans l'inspiration, dans la création.
Est-ce qu'il t'arrive d'envier des gens, toi?
Dis-le
pour vrai, là.
Sincèrement, là, je ne suis pas une grande envieuse et... Je sais que tu veux nous parler du bonheur et de la relation avec l'envie.
Des niveaux d'envie chez l'être humain.
J'en ai pas. Peut-être que je ne suis pas au courant et je ne suis pas consciente des niveaux d'envie, et donc je te répondrai pas beaucoup.
Un philosophe alban qui s'appelle Clagus, qui a fait des recherches il y a déjà assez longtemps là-dessus, on parle d'une cinquantaine d'années, sur les niveaux d'envie. Qu'est-ce que les humains envient chez les autres êtres humains? Parce que envier, ça rend malheureux. C'est pour ça que c'est lié au bonheur. Il a dit, est-ce qu'il y a des niveaux d'envie? Est-ce qu'ils sont différents? Quels sont-ils? Est-ce qu'il y a une hiérarchie? Oui, il y a une hiérarchie. Regarde bien ceci. La première chose qu'on envie chez quelqu'un, c'est pas la plus importante, c'est la plus évidente, la moins importante. Tu vas voir, on va monter en importance, et plus on monte en importance, moins les gens veulent en parler ou l'avouer.
J'aimerais t'entendre sur... Par importance, est-ce qu'on parle en importance en termes de conséquences, en termes de...
De profondeur.
OK.
De profondeur chez l'être humain, de conséquences.
OK, je t'écoute.
Le premier niveau d'envie, c'est la richesse. D'envier chez les autres ce qu'ils possèdent, leurs possibilités financières, etc.
La maison du voisin.
C'est assez facile. Ça, on l'admet assez facilement. Oh, si je pouvais avoir une Rolls Royce puis une grosse maison.
Moi aussi, si j'avais autant d'argent, je ferais telle affaire.
C'est ça. C'est ça. On l'admet facilement. Il y a un niveau d'envie un petit peu au-dessus. On en parle volontiers, mais moins rapidement. C'est l'envie de l'intelligence de l'autre.
Ben, des capacités puis des facultés individuelles de chacun, j'entends ce que tu dis, effectivement.
Il y en a qui sont mieux dotés que d'autres. Il y a des grosses têtes là-dedans. Et on peut envier, tu sais, être un Einstein, par exemple, ou des trucs comme ça. On peut envier un niveau d'intelligence. Mais il y en a un qui est encore plus important, et plus c'est important, plus c'est secret, moins on en parle. Ce qu'on envie chez les autres, c'est la beauté. Mmh. Ça a l'air superficiel, hein? Mais l'être humain, la beauté est basée sur la reproduction. C'est un instinct de reproduction, la beauté. On envie cette beauté-là chez l'être humain, facilement, mais on en parle moins. Mais le niveau d'envie le plus important, et on n'en parle jamais, c'est l'élan vital. En allemand, ça s'appelle le Liebenschneid, c'est-à-dire la force d'aimer.
Oh. Okay?
Ce qu'on a vu chez l'autre, c'est sa force. Tu dis, il est résilient, c'est incroyable ce qu'il peut faire. Souviens-toi, pour ceux qui ont vu aussi Zorba le Grec, le film, à un moment donné, tout s'écroule. Tout s'écroule, ils ont bâti une mine, ils ont à zéro, ruiné complètement. Il y a un Grec, un Crétois, et un Anglais, qui sont deux associés là-dedans. L'Anglais est découragé complètement, etc. Et Zorba, le Grec, se met à danser. C'est ce qui s'appelle l'élan vital. C'est-à-dire qu'il va chercher en soi le simple, l'immense plaisir de vivre tout simplement. Et c'est pas donné à tout le monde de pouvoir s'asseoir là-dessus, se mettre à danser quand un gros problème, parce que le plus important, c'est d'être en vie. Ben, c'est ça qu'on envie aux gens. Les gens qui en sont capables d'aller jusque-là. Célébrer leur vie malgré les déboires.
Donc, quand ce dont tu parles là fait beaucoup, beaucoup de sens. Et c'est pas quelque chose... J'ai vu cette manifestation-là d'envie. Et probablement que toi aussi. Et ceux qui nous écoutent à la maison, dans votre voiture, vous devez avoir quelqu'un en tête, un moment précis où vous-même ou quelqu'un d'autre a ressenti que sa négativité n'était pas à la hauteur de la possibilité, justement, d'être résilient, d'être optimiste. de voir le bon côté des choses. Donc, on parle de vitalité, de vigueur, de bonheur, de capacité à voir le beau dans le pas beau.
C'est-à-dire qu'il faut avoir cultivé son animalité, aussi brillant qu'on soit, hein, aussi doué qu'on soit. La base de la vie est animale. Et si on la néglige trop pour toutes sortes de préjugés ou d'empêchements moraux, on arrive rarement à être heureux fondamentalement si on réussit trop souvent à envier les autres dans ce qu'ils ont de vital.
Donc, toi, tu dis que pour être heureux, on doit accepter la partie animale en soi.
Mais c'est absolument essentiel. On parlait de restaurant tout à l'heure, là. Mm-hmm. Aller manger, c'est quoi, là?
Mm-hmm. C'est la base.
C'est la base, bon, la reproduction, l'amour, la sexualité, tout. Il n'y a pas que ça. Se promener dans la nature, on en parlait pour le bonheur. Tout ça, ça fait partie de la vie animale, entre guillemets, de l'humain. La vie fondamentale, biologique de l'être humain.
Ben, c'est drôle parce qu'on dirait qu'on a tout le temps cette idée-là de réprimer nos... On appelle ça les pulsions animales.
Tu sais d'où
hein?
ça vient?
Ben, j'ai un petit doute.
La religion catholique, et voilà. Toutes les religions en général, qui veulent nier ça complètement.
Le chat est sorti du sac.
Le contrôler, le chat, il était temps qu'il sorte du sac, moi, je disais. Tant qu'à moi, il peut, le sac, tu peux le jeter avant qu'il retourne dedans.
Non, tant que tu ne jettes pas le chat, moi, ça
va. Il y a encore la majorité des problèmes de paix dans le monde sont dus à la religion
qui
et rien d'autre.
Beaucoup plus.
Quelle qu'elle soit.
Oui, tout à fait.
Alors moi, la religion, là, la pyramide du peuple et compagnie, là, je suis tout à fait. Moi, je suis plus anti-religieux que moi. Non, on est quelques-uns quand même.
Oui, on commence, je pense, à avoir cette conscience-là. Donc, tu nous parlais du bonheur et je veux que tu recites cette phrase-là qui chapeaute cette quête qu'on fait à toutes
les
semaines.
Le bonheur, c'est marcher dans la nature à la rencontre de nos tendresses. C'est ça que c'est.
Et pour rencontrer nos tendresses, on doit se sortir de ces niveaux d'envie. Et pour se sortir de ces niveaux d'envie, j'entends, parce que c'est ce que j'entends finalement.
Il faut en être conscient.
Et voilà. Moi, je reviens toujours à prendre conscience, réaliser, accepter, comprendre et ensuite agir sur ça. Pourquoi on...
T'as raison.
Je sais, j'ai souvent raison.
Pas toujours, mais là, t'as raison.
Non. Merci infiniment, Robert. Très intéressant toujours.
Mais je vais te présenter quelque chose, par exemple.
Oui.
Je vais te présenter une musique. Je t'ai parlé de musique classique sur laquelle on pouvait écrire des paroles, toi qui aimes tant chanter.
Oui, la semaine dernière, on en a parlé.
Écoute ce que Raoul Duguay a écrit sur une musique classique.
Super.
Plane autour de la vie, les villes conquistadors te tiennent en s'épuise n'est plus un bien commun, devenu marchandise aux mains de quelques-uns. Ce droit universel a plein de de rire lumineux, bientôt tarir ma peine, ramène-moi dans l'Éden.
car toute l'espèce humaine se fanera à jamais, à moins que de lui vienne l'eau vive de la paix. Ève, mère de la terre, bientôt me secourir, bientôt me secourir, viens m'apprendre à t'aimer.
Robert, après le café, semble-t-il que ce que l'on met dans son corps est quand même une bonne partie de ce qui nous rend bien et des bonnes nouvelles en santé. On en veut. Tu nous parles d'un autre aliment?
Ben oui, ben c'est une bonne nouvelle. Tu voulais des bonnes nouvelles?
J'en veux constamment.
J'en ai trouvé d'autres. Je sais pas d'où ça vient, le fait qu'il y a tellement plus de gens, les enfants en particulier, qui sont devenus allergiques à l'arachide. Là. On sait pas d'où ça vient. Je sais qu'il se fait beaucoup d'études, mais ils savent pas vraiment pourquoi l'augmentation, en tout cas, c'est arrivé. Puis c'est un paquet de troubles, c'est inquiétant pour les parents.
Ben, parce que les conséquences sont grandes, là.
Eh bien, on vient de découvrir qu'il y a une patch qui pourrait contrôler ça. Regarde ça.
Pour les
enfants que sur les adultes. Ouais, ils ont fait une étude sur 221 patients. Ça a marché à 85%. Simplement une patch qui fait que tu peux même manger tes arachides ou des traces d'arachides, si tu veux. Il n'y a aucun problème. Tu n'as pas de réaction.
Mais c'est donc bien incroyable.
C'est tout nouveau. Ça date de la semaine dernière pour la publication, en tout cas. Ça doit faire quelques années qu'ils cherchent.
Ben là, il doit, oui.
Mais j'ai trouvé ça formidable. Ils viennent d'avoir un OK de la FDA américaine pour pouvoir commercialiser ça. Alors, vérifiez ça, parce que pour ceux qui sont prêts avec ça, là, c'est tellement plus intéressant que se promener avec la seringue, là.
Ben ouais,
puis de faire attention à tout, puis il fait bon, ça a l'air qu'avec ça, là, ça pourrait tout régler.
On a-tu des nouvelles si Santé Canada sont en train d'évaluer ce...
Ça n'était pas publié dans le Journal of the American Medical Association, mais c'était fait dans ses FDA. C'est les Américains qui l'ont accepté. Ici, je ne sais pas, mais tout ce que font les Américains, on fait la même chose. C'est pas loin d'habitude, là.
On n'est pas loin.
Oui.
Habituellement, c'est pas trop long avant qu'on
se rende. On est un peuple de miroir, nous autres.
Je trouve ça incroyable. Je trouve ça vraiment une bonne nouvelle pour les gens et les familles, entre autres. Pour ma part, dernière bonne nouvelle de la semaine, Robert, parce que j'ai un anicroche avec ce sujet qui est la musique. Tu le sais. Savais-tu qu'il y a une étude qui a été menée à la fin de l'année dernière et ça a été publié dans le Royal Society Open Science? Des chercheurs se sont penchés sur la musique. Il y a plus de 90 000 chansons qui ont été étudiées et il semble que les chansons positives sont en hausse. Par chansons positives, on entend quoi? On a regardé 5 régions du monde. On a étudié des chansons en anglais. On a étudié l'Amérique du Nord, l'Australie, l'Europe de l'Ouest, la Scandinavie et l'Asie. Donc, il y a même un bon échantillon. Et la conclusion, c'est que les paroles sont beaucoup plus positives, mais également, on sait que, bon, mathématiquement, la musique, bon, ça véhicule des émotions, mais on a des accords majeurs et des accords mineurs qui transmettent des émotions qui sont différentes. Et on voit une hausse dans les accords majeurs. Je demande à Jean-Sébastien de nous montrer ce que je veux dire. Majeur. Mineur. Oh! Vois-tu la différence?
Oh, je fais de la musique, je sais.
Vois-tu, l'entends-tu du moins?
Ah oui, bien sûr.
Donc, les accords majeurs et les paroles positives sont en hausse. La première position revient à l'Asie. L'Amérique du Nord est en quatrième position. Par contre, l'Asie est la moins cohérente entre les accords utilisés et les propos dans une même chanson. C'est-à-dire que ça fonctionne peut-être moins bien. Ils peuvent parler de quelque chose de négatif en ayant une musique plus gay et vice-versa. Pourquoi j'ai décidé de parler de cette bonne nouvelle-là, c'est que les artistes sont très influents. La musique nous accompagne dans tous les moments d'émotion, qu'ils soient positifs ou négatifs. Et je me demande, est-ce que ça reflète qu'on va mieux dans les 10 dernières années ou que nos artistes ont décidé qu'ils allaient finalement nous amener là?
Moi, je pense qu'il faut faire une correction ici.
Vas-y.
Oui, la musique nous accompagne, je veux bien.
Moi,
mais la musique cause ces émotions-là.
Et voilà, c'est
des fois,
ma question.
C'est dans l'autre sens, là.
C'est ça ma question. Est-ce qu'on va nous amener dans un meilleur état intérieur ou encore est-ce qu'on va mieux et on choisit d'écouter ça et donc les artistes s'adaptent?
T'as bien dit écouter, pas entendre.
Ça dépend. Des fois, on écoute, des fois, on entend. Hein? Je remercie Catherine Beaudoron à la recherche. Merci également Jean-Sébastien et La Liberté à la régie. Et merci aussi à Judy Servet d'avoir accepté notre invitation d'invité de cette semaine. Robert, merci infiniment.
On va aller manger au restaurant.
Tout à fait, le Robin des Bois. Bonne semaine tout le monde.